Direct en jeu, la radio insolite, toujours sur le sujet, c'est la semaine du Puy-en-Velay, même si, vous vous rappelez, pour des conditions sanitaires et surtout, malheureusement, pour le grand départ de Bertrand Tavernier, je n'ai pu aller au Puy-en-Velay. Alors, je tiens à signaler que je ne fais que reporter mon déplacement, parce que le Puy-en-Velay, il y a quand même les lentilles, il y a quand même la verveine, il y a quand même plein de bonnes choses. Et puis, il y a surtout un monsieur qui m'a sacrément aidé pour quand même réaliser cette semaine. C'est vous, monsieur Grimaud. Bonjour, Jean-Paul.
Oui, bonjour, Alain.
Vous êtes directeur, alors directeur de l'office de tourisme, directeur de l'office de tourisme et l'agglomération, allez-y, refaites-moi votre étiquette, s'il vous plaît.
Oui, bonjour Alain, je suis le directeur de l'office de tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay, c'est-à-dire bien sûr la ville du Puy-en-Velay, mais également 70 communes tout autour, puisque l'office de tourisme s'étend par exemple sur un territoire qui va jusqu'à la Chaise-Dieu, donc au nord du département de la Haute-Loire.
On est donc en Haute-Loire, c'est bien ça? À quoi, 70 km
Absolument.
De Saint-Étienne?
On est effectivement à 75 km de Saint-Étienne, à peu près une petite heure de voiture, 1h40 de Lyon, 130 km de Lyon, et à peu près la même distance de Clermont-Ferrand.
D'accord. Moi, j'ai toujours appelé le Puy. Pourquoi est-ce qu'on dit le Puy-en-Velay?
Alors, le Puy, l'étymologie du mot le Puy, ça vient de podio, podium, en latin, donc une élévation, une hauteur. Et le Puy, c'est pas toujours appelé le Puy. À l'époque gallo-romaine, le Puy s'appelait Anicium, c'est-à-dire la cité d'Anis. Le mont Anis, c'est la colline sur laquelle a été construite la cathédrale du Puy-en-Velay. Et puis c'est par la suite que le Puy est devenu le Puy, d'abord le Puy Sainte-Marie, puis ensuite le Puy-en-Velay. Et cette connotation de Puy-en-Velay, elle est officielle depuis un décret du Conseil d'État en 1988, c'est pas très vieux.
Oui, il n'y a pas très longtemps.
Voilà, c'était une volonté des élus de l'époque de bien ancrer la ville dans son territoire, dans le Velay, et pour éviter, parce que c'est toujours un peu compliqué parfois de nous situer, donc d'éviter les confusions avec le Puy-de-Dôme, avec même le Puy-du-Fou.
Ah oui.
Voilà. Donc cette notion de Velay, elle est importante pour nous parce qu'elle signe un territoire et une ville. Et il y a vraiment une très grande interdépendance de l'un et de l'autre. Le Puy ne serait pas ce qu'il est sans son territoire et le Velay ne serait pas ce qu'il est sans sa ville chef-lieu, bien sûr.
Alors évidemment, je parlais du Puy-en-Velay, je parlais des lentilles, je parlais de la verveine. Mais est-ce qu'on peut parler du Puy-en-Velay sans parler du chemin de Saint-Jacques? Puisqu'il semblerait que ce soit, j'allais dire, la capitale galactique du chemin de Saint-Jacques.
C'est difficile, surtout depuis une vingtaine d'années, voire un petit peu plus. C'est vraiment maintenant un marqueur territorial, un appel, parce que ce chemin de Saint-Jacques très emblématique, et le départ du Puy l'est encore plus, je vous rappelle que c'est le principal point de départ en Europe pour les chemins de Saint-Jacques. Hein. Sur le Puy-en-Velay, c'est pratiquement 25 000 personnes, en année normale bien évidemment, qui partent de la cathédrale sur le chemin. Quand je dis 25 000 personnes, ce sont des Français bien sûr, mais également des étrangers, à peu près 20 à 25% suivant les périodes de l'année. En 2019 par exemple, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour retenir, on a compté à la cathédrale, à la messe des pèlerins le matin, 62 nationalités différentes. Donc ça veut dire que c'est vraiment le chemin de Saint-Jacques quelque chose qui n'est pas qu'un phénomène français ou européen, mais quelque chose de vraiment mondial, avec des gens qui viennent de tous les continents. Alors vous avez raison, aujourd'hui on parle beaucoup du chemin de Saint-Jacques parce que le chemin de Saint-Jacques c'est un élément de rayonnement et d'attractivité du Puy-en-Velay, au-delà même de ceux qui le font si vous voulez. Vous me parlez du chemin de Saint-Jacques, il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant sur le Puy-en-Velay en ayant entendu parler du Puy-en-Velay par rapport au chemin de Saint-Jacques.
D'accord, donc c'est quand même, ça draine quelque chose d'assez important. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le Puy, à l'époque, est un ancien bastion religieux? Est-ce qu'on a une explication sur pourquoi? Parce qu'on a Lourdes, évidemment.
On a des lieux
emblématiques, mais pourquoi le Puy?
Et votre remarque est tout à fait pertinente, parce qu'on a parlé à une époque du Puy-en-Velay comme étant le Lourdes du Moyen-Âge. On retrouve ça dans un certain nombre d'écrits. Bah, tout simplement, le phénomène religieux, il est lié ici à des apparitions, à des miracles. Alors, par rapport à Lourdes, qui date des années du milieu du 19e siècle, qui est relativement récent, le Puy, ça remonte au 5e siècle. Et donc, effectivement, les choses sont un petit peu différentes, parce que depuis le 5e siècle, les choses se sont un peu évoluées. Mais au départ, c'est une construction d'un sanctuaire à partir d'une apparition de la Vierge, et ensuite également un culte qui tournait autour de ce que l'on appelle la Vierge Noire, qui est une statue que l'on conserve encore dans la cathédrale du Puy-en-Velay. Alors je dis tout de suite pour vos auditeurs que celle que nous conservons n'est pas celle d'origine.
Parce c'est bien de préciser, c'est une très bonne chose de
préciser. Voilà, a été détruite, malheureusement, a été brûlée à la Révolution. Mmh. Et celle que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas non plus une copie exactement de celle qui a été détruite, mais c'était une autre statue qui était conservée dans un couvent de la ville. Voilà pour la statue. Mais donc le Puy-en-Velay, l'importance de l'aspect religieux du Puy-en-Velay, c'est qu'il y avait un double mouvement. C'est-à-dire qu'on venait au Puy-en-Velay en pèlerinage, pèlerinage marial, le sanctuaire marial, donc pour la Vierge, et on venait au Puy-en-Velay pour prendre le départ sur les chemins de Saint-Jacques. Mmh. Et c'est ça qui a fait la spécificité du sanctuaire du Puy, c'est-à-dire un lieu pour lequel on venait et un lieu pour lequel on partait pour d'autres horizons. Et ça a duré jusqu'à la Révolution. C'est à partir de la Révolution où on a vu un certain déclin des chemins de pèlerinage, notamment, et un petit peu du sanctuaire. Et puis le renouveau du sanctuaire, et notamment des chemins de Saint-Jacques, c'est au milieu des années 80, où là, il y a eu vraiment un engouement très, très important. Et aujourd'hui, le sanctuaire marial vit aussi de la notoriété et de l'importance du chemin de Saint-Jacques. Donc tout ça est très, très lié. Mais on peut dire que la ville, elle est née d'un miracle, finalement, d'une apparition de la Vierge. Et c'est ce qui a permis son développement économique, puisque toute la ville du Puy, à un moment, notamment en termes d'artisanat, a tourné autour du sanctuaire.
Est-ce que vous l'avez fait vous-même, le chemin de Saint-Jacques ?
Alors, non, très honnêtement, non. Par contre, j'ai marché sur le chemin, 3-4 étapes, notamment sur la partie entre le Puy et la Margeride, d'après la région de Sogues, dans le Gévaudan. Alors, le témoignage que nous font les gens que l'on voit ici à l'office de tourisme, parfois certains nous envoient des cartes postales ou des petits messages, ils nous disent tous, pour ceux qui l'ont fait jusqu'à Saint-Jacques, il y a trois choses qui nous ont marqué sur le chemin. C'est bien évidemment le départ du Puy, parce que c'est très symbolique. C'est la partie le Puy-Conque, avec la traversée de l'Aubrac notamment, c'est la traversée des Pyrénées et c'est l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Pour les gens, souvent, c'est vraiment ces gens. Et donc, la partie entre le Puy et Conques, alors on est peut-être un peu chauvin, mais je pense que c'est la plus jolie partie, en tout cas en France, des chemins de Saint-Jacques, parce que c'est peut-être celle qui est restée la plus naturelle, entre guillemets, où quand vous marchez sur certaines journées, vous avez vraiment l'impression de marcher dans les pas des pèlerins il y a 1000 ans. Quoi. Il y a vraiment une beauté des paysages et une variété des paysages sur finalement relativement peu de kilomètres, parce que sur 15 jours, 10 à 15 jours de marche entre le Puy et Conques, vous allez avoir des zones de volcans, des zones de plateaux, des zones de vallées. Vous allez aller progressivement vers une direction sud-sud-ouest avec donc un changement également des paysages et des climats. Donc finalement, c'est une randonnée sur laquelle on a un changement, j'allais dire, quotidien, et c'est ce qui fait aussi son attrait.
Enfin, je rappelle juste que pour aller du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'après ce que m'a dit Robert Dubois, qui guide accompagnateur, il y a quand même 1600 km.
Donc, 1600... Il y a 1600 km, tout à fait. Il faut compter à peu près 2 mois de marche.
1600 km à pied. Bonjour. Il y a des pauses, il y a des goûters, non ? Il y a des...
Ah oui, oui, oui. Ben, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire aussi de façon très confortable, en faisant des étapes peut-être plus courtes, voire gastronomiques à certains endroits. Donc, oui. Il y a différentes manières de faire le chemin de Saint-Jacques.
Et il paraît qu'on peut même le faire à cheval, là. Après ce que quelqu'un m'aurait dit.
Oui, on peut le faire à cheval.
C'est moins fatigant.
C'est peut-être pas la façon la plus facile parce que il faut aussi s'occuper de son animal. Et donc voilà, mais on peut le faire à cheval. Enfin, 90% des gens le font à pied, qui est la façon la plus simple peut-être de le faire.
Alors, il y a un point commun que vous avez avec le Puy du Fou, si je puis me permettre, et vous l'avez cité au départ, c'est que si le Puy du Fou a son spectacle, vous avez, je dirais même pas un temps fort médiéval, étant le fait que tout au long de l'année, moi quand je viens au Puy-en-Velay, j'adore me balader dans la vieille ville, et puis j'ai l'impression de me retrouver parfois dans les années d'avant.
Alors, je crois que vous avez eu en interview Jean-Louis Roqueplan, qui est le metteur en scène de nos fêtes Renaissance.
Exactement.
On insiste bien sur les fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que le Puy-en-Velay, c'est un secteur sauvegardé de 35 hectares, autour de la cathédrale et du sanctuaire. Et dans ces 35 hectares, eh ben on est replongé, c'est vraiment un décor de cinéma. On pourrait tourner des films en costume de l'époque, effectivement, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et donc cette vieille ville, elle imprègne vraiment l'ensemble de la ville, j'allais dire. C'est vraiment son image. Et le temps fort que représentent les fêtes du Roi de l'Oiseau au mois de septembre, c'est finalement une mise en valeur de ce patrimoine que l'on peut découvrir effectivement toute l'année. Il y a vraiment à certains endroits des ruelles et des rues, un parcellaire, un urbanisme qui n'a pas changé depuis des siècles. La ville, par contre, s'est beaucoup embellie, a restauré beaucoup de quartiers. Et donc aujourd'hui, il y a des similitudes, par exemple, entre certains quartiers du Puy et le Vieux Lyon, oui. Les quartiers du Vieux Lyon de l'autre côté de la Saône.
Oui, sauf que vous me permettez, je vous signale que le Vieux Lyon, c'est plat, alors que le Puy-en-Velay, je crois que parfois, ça monte un peu.
Ah, c'est vrai, ça monte un peu, mais quand on est en haut, on a la satisfaction d'avoir le point de vue aussi sur la ville et sur les environs. C'est vrai.
Quand on parle de l'agglomération, on parle de la Chaise-Dieu. La Chaise-Dieu, c'est assez connu pour le festival de musique classique.
De musique.
Mais c'est d'un côté dans l'agglomération et pourtant c'est à une quarantaine de kilomètres. Donc comment ça se fait que l'agglomération...
Oui, alors vous savez, les découpages administratifs aujourd'hui, les regroupements de communautés de communes et de communes font qu'on a des territoires qui sont relativement vastes. Mais nous, il y a un intérêt, c'est-à-dire que de faire un lien entre le Puy et la Chaise-Dieu, ça a du sens. Ce sont deux hauts lieux religieux et spirituels, et les clientèles, un circuit Le Puy la Chaise-Dieu, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, d'autant plus à la Chaise-Dieu, depuis maintenant 2 ans, avec le retour de cette fantastique, cette extraordinaire collection de tapisseries flamandes, qui a été totalement, c'est un trésor national d'ailleurs, qui a été totalement restauré. Donc c'est 14 tapisseries qui retracent la vie du Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament, et dans une salle dédiée. C'est vraiment un des joyaux, j'allais dire, de la tapisserie bien évidemment, mais de l'art religieux d'une manière plus générale.
Est-ce que ça veut dire que quand on vient en tourisme, en pèlerinage, dans l'agglomération du Puy-en-Velay, on y vient pour des motifs religieux ou on peut ne pas être religieux et venir profiter de tout cela ?
Ah, ben bien évidemment, je veux dire aujourd'hui, l'aspect religieux a beaucoup... On considère que moins de 10% de notre fréquentation touristique ou de nos visiteurs viennent d'abord par une motivation religieuse de pèlerinage. Donc vous voyez, 90% des gens qui viennent sur le territoire, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient sur le territoire sans une démarche religieuse ou spirituelle, à un moment ou un autre, ne va pas rencontrer le fait religieux, parce que ne serait-ce que de se balader ou de passer un moment dans la cathédrale du Puy ou à l'abbaye de la Chaise-Dieu, ça parle, ça prend les tripes, comme on dit, mais il n'y a pas forcément une volonté au départ d'un pèlerinage. On n'est plus une destination de pèlerinage marquée comme certaines villes. Vous parliez de Lourdes tout à l'heure, ou de Lisieux, où là, on a une démarche première de pèlerinage. Au Puy, on a, je crois, plus une démarche culturelle, patrimoniale, avec une dimension religieuse à un moment. Et le chemin de Saint-Jacques, c'est un petit peu à l'image de ça. C'est-à-dire beaucoup de gens qui font le chemin de Saint-Jacques le font dans une démarche de recherche de quelque chose, d'un retour sur soi-même, d'une certaine spiritualité, mais pas forcément dans une démarche de pèlerinage catholique avec la messe tous les jours. Voilà. Mais tout ça participe d'un ensemble. C'est-à-dire, l'être humain, ce n'est pas un seul bloc. On dit toujours, par exemple, quand vous venez en Haute-Loire, vous pouvez très bien le matin aller à la messe à la cathédrale à 7h, l'après-midi aller faire du raft dans les gorges de l'Allier, par exemple. Je veux dire, les choses, il faut pas segmenter. Notre territoire du Velay a cette richesse et ses possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement, dans une même journée, faire des activités très culturelles, très patrimoniales, de visites, de découvertes, et puis en même temps avoir ce qui fait aussi notre charme, cette nature à proximité. Et je vous rappelle qu'on est traversé par deux grandes rivières, deux fleuves, la Loire et l'Allier, sur lesquels on peut également pratiquer de très nombreuses activités. Si on étend un petit peu l'agglomération au secteur du Mézin et du Mégal, on a là aussi des zones qui ressemblent à certains certains secteurs de l'Écosse ou de l'Irlande, hein, la station des Estables, on n'est pas loin des sources de la Loire ou Gerbier de Jean. Donc, j'allais dire, le Velay, c'est un peu un petit microcosme, un petit concentré de tourisme de pleine nature. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, en plus, je pense qu'on a beaucoup de cartes à jouer.
Tout à fait.
C'est-à-dire que dans cette recherche d'espace, de convivialité également. Voilà.
D'accord. On va finir par la gastronomie. Tout l'été 2020, on a installé Direct en jeu de Radio Insolite pour ces quartiers d'été avec Aix-les-Bains pour le côté thermalisme. Vous, en ce qui vous concerne, si je ne dis pas de bêtises, on peut venir au Puy-en-Velay faire une cure de lentilles.
C'est bien. Alors, on peut faire une cure de lentilles, c'est même tout à fait conseillé, parce que la lentille, c'est un légume sec, une légumineuse qui est riche en protéines, donc en fer, en protéines. Et c'est un peu l'emblème de la gastronomie locale, cette lentille verte, que l'on peut préparer de différentes manières, d'ailleurs, puisque les grands chefs aujourd'hui, là, alors on peut la préparer en entrée, en salade, on peut la préparer en accompagnement de viande ou de poisson. Les pâtissiers aussi l'utilisent dans certains desserts. On peut, avec la farine de lentilles, faire également des compositions. Enfin, voilà, c'est vraiment un aliment très très sain et qui accompagne beaucoup. Et il y a une grande variété. C'est-à-dire aujourd'hui, l'image de la lentille, saucisse lentille, ça existe toujours, si vous voulez. Mais aujourd'hui, la lentille, elle a plutôt une image un peu, entre guillemets, un peu haut de gamme, d'un produit en tout cas bon pour la santé et qui vient en complément d'une alimentation saine. Aujourd'hui, on est même un peu victime de notre succès, puisque la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de production de lentilles vertes du Puy, puisqu'on est dans une zone d'appellation protégée, une AOP, donc on ne peut pas faire de la lentille verte du Puy n'importe où, c'est uniquement dans une certaine zone. Et aujourd'hui, certaines années en tout cas, on manque un peu de production, parce qu'il y a une très forte demande.
Bah écoutez, moi c'est une bonne chose.
Voilà, et en tout cas, moi ce que j'attends vraiment, c'est la réouverture de tous les établissements de restauration. Et au-delà de la lentille, il y a d'autres produits qui sont sympas dans la région. Il y a aussi les produits de la cueillette, je pense aux champignons, aux fruits rouges, le fin gras du Mézin, la charcuterie de montagne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de bons produits qui accompagnent la lentille d'ailleurs souvent.
Écoutez, moi, je voulais vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, site internet de l'Office?
Alors, le plus simple, c'est de venir nous voir. Hein. On est en centre-ville du Puy-en-Velay. Oui. Mais déjà, on peut découvrir de chez soi sur notre site internet, hein, qui est tout simple. C'est lepuyenvelay-tourisme.fr, où là, déjà, ça vous donne un avant-goût de ce que nous proposons à nos visiteurs.
Je tiens à signaler ici à tous les
auditeurs. Merci beaucoup, vraiment, de l'intérêt que vous avez porté cette semaine à notre destination. C'est vraiment très sympathique de votre part.
Ouais, Monsieur Grimaud, je tiens à signaler quand même qu'au Puy-en-Velay, il ne fait pas que froid. Je crois qu'aujourd'hui, il va faire 18-20 degrés, si je ne dis pas de bêtises.
Oh oui, là, j'ai eu un beau soleil sous ma fenêtre du bureau.
C'est important de signaler.
Voilà, je pense qu'on va être au-delà des 20 degrés aujourd'hui.
Merci à vous, bonne journée, puis au plaisir de venir vous rencontrer.
Eh ben, merci beaucoup, merci Alain. Bonne fin de journée.